Bienvenue à notre podcast Côté sombre. Je m'appelle Jennifer.
Et je suis Colin.
Je vous parle de crime.
Et je fais mon possible. Jennifer.
Mais que nouveau cette intro de feu? Oh my God! Le 50e épisode, ça veut dire que bientôt, Côté sombre va avoir un an.
Yes! C'est fou qu'on a fait 50 épisodes dans un an. Là.
Merci gang à tous ceux... Il y en a qui nous suivent depuis le début, là, qui nous ont donné une chance dès notre premier épisode, puis... Cette semaine, justement, j'ai des gens sur notre groupe Facebook qui demandaient « Mais où est le premier épisode? » Puis Colin et moi, en le réécoutant à un moment donné, on était tellement mal à l'aise. On était comme « Non, on enlève ça. » Mais ouais, c'est notre 50e épisode. Je capote bien raide. Merci à tout le monde. Notre groupe Facebook a maintenant près de 3000 abonnés. Qu'est-ce que je peux demander de mieux? Merci. Puis j'ai une dernière chose avant de te céder la parole, Colin. J'ai expliqué sur le groupe Facebook, mais désolé à ceux qui ont écouté la mauvaise version du dernier épisode. Oui, ça manquait vraiment de classe. Là, je veux dire, vous avez comme eu une petite fenêtre dans notre vie personnelle, dans le sens que faut pas oublier que nos podcasts, on les enregistre dans notre salon, puis qu'on coupe des choses. Même sur Patreon, nos épisodes sont sans édit. Ce qui est vrai, en partie, dans le sens que si Colin va faire pipi juste à côté...
C'est coupé.
On le coupe. Quand, si on fait des rapports, hein, surtout Colin, moi, j'en fais jamais, ben on les coupe. Tu sais, je veux dire... Mais là, moi dans la vie, là, je suis efficace. Je fonctionne. Faut que ça se fasse, le travail. Mais c'est pas toujours vite fait, bien fait. Fait que là, j'ai cliqué sur la mauvaise file. C'était la version MP3 que Colin utilise pour faire la vidéo, mais qu'après ça, il coupe. Anyway,
Cette version n'avait aucune
non.
coupe.
Puis je m'en suis aperçu quand même assez tôt. Tu sais, en deux jours, je me sens vraiment mal. Mais écoute, c'est fait. J'ai remplacé le truc. J'ai mis le bon fichier, mon Dieu, mais il y en a qui ont aimé ça. En tout cas, désolé, gang, c'était une erreur.
Yeah.
Comment ça va, toi?
À part d'être traumatisé par cette expérience-là, non, très bien.
J'étais tellement fâchée.
Hein. Oh, t'étais fâchée.
Je passais par toutes les émotions. J'étais fâchée, triste. J'étais comme, ma vie est fichue.
Oh, yeah. Tu m'accusais pour un moment, mais là...
Je t'accuse tout le temps.
Yeah, peut-être.
T'es-tu prêt?
Non.
Oh.
Pas en tout.
Ben là, prêt, pas prêt?
OK.
J'y vais. Oh. L'histoire d'aujourd'hui se déroule en 1983, dans la ville de Toronto.
Au tabarjac.
Juste à côté de nous autres. Je vous épargne cette fois-ci la description de la ville, parce que, bon, c'est Toronto, là, mais vous pouvez être certain que je vais vous parler de son taux de crime, par contre. Bye-bye.
Oh, lance-moi ça. Yowza.
En 2018... Dans tout le Canada, OK, il y a eu 651 homicides. Dans tout le Canada.
OK.
142 à Toronto seulement.
Get the fuck out of here, Jennifer.
Mais là, c'est sûr que 142 sur combien de personnes? Il y a à peu près 6 millions, un petit peu plus que 6 millions à Toronto, OK? Puis Montréal, c'est à peu près 4 millions. Fait que 142 homicides sur 6 millions, c'est 2,26 sur 100 000 habitants. Si on compare avec Montréal pour la même année, 47 homicides, c'est 1,1 sur 100 000 habitants. C'est quand même vraiment plus, là.
Yeah.
En 2022, maintenant, Toronto comptait 136 meurtres, soit 2,26 sur 100 000 habitants, tandis que Montréal en comptait 65, ce qui est 1,63 par 100 000 habitants. Fait que même, oui, la population de Toronto est plus... est plus grosse que celle de Montréal.
Ouais.
Mais leur taux d'homicide, si tu compares sur 100 000, mettons, c'est vraiment plus élevé, là. Fait que là, écoute ça. Il existe encore, à ce jour, plus d'une centaine d'homicides non résolus au Canada. Il y a également des cas qui ont mis des années avant d'être résolus, justement, avant d'être en mesure d'attraper le coupable, OK? Je pense, entre autres, au cas de Sharon Pryor, où il aura fallu près de 50 ans pour trouver son meurtrier. Ça s'est passé à Longueuil, hein? Puis le cas d'aujourd'hui, le cas dont je vais vous parler, là, il va avoir pris 39 ans. Ça va avoir pris 39 ans avant d'emprisonner la personne responsable. La personne responsable de la mort de Susan Tice et Darren Gilmer.
Tabarjack.
Gilmore.
36 ou 39 ans?
Dwight, you ignorant slut!
Ça, c'est le... c'est mon nouveau bouton préféré, OK? Ceux qui savent, le savent. If you know, OK? Quand Colin va me poser des questions, pas stupides, là, mais... pour ça que j'ai dit, c'est mon bouton préféré.
Qui je viens de le dire. Peut-être que j'ai pas porté assez attention ou détail.
Hmm? 39 ans.
Merci.
Susan Tice est née Susan Hoera Willis-Croft. C'était pas facile à dire. Elle est née à Owen Sound, c'est juste à côté de Toronto, OK? Puis elle est née en 1937.
OK.
En 1983, elle avait 45 ans. Susan a été une adolescente modèle, adepte de cheerleading. En 1956, elle a débuté ses études à l'Université McMaster à Hamilton. Bravo, parce qu'en 56, il n'y avait pas tant de femmes que ça qui allaient à l'université.
Non, puis McMaster University, c'est une bonne bonne université.
Bravo, Susan.
Yeah, bravo.
Elle a ensuite poursuivi une carrière en tant que travailleuse sociale et thérapeute familiale. En 1961, alors qu'elle avait 24 ans, Susan s'est mariée avec Fred Tice, puis elle a fondé une famille à Calgary. Elle a eu 4 enfants. 3 fils et une fille. Selon le Globe and Mail, Susan faisait tout pour ses enfants. Justement, pour faire plaisir à un de ses fils, elle l'a amené faire du canot au Yukon. Au début de l'été 1983, Susan s'est séparée, puis elle est retournée vivre en Ontario, mais cette fois-ci, elle est allée à Toronto. Elle habitait juste à côté du parc Bickford, coin Gray Street, puis Harbord Street.
OK.
Puis, ben pour te donner des points de repère, Colin, je sais exactement quoi te dire. C'est à 15 minutes à pied du Stinky D's, puis à 30 minutes à pied au nord du Bovine Sex Club.
Got it.
Yeah. Yeah, Colin, quand il va à Toronto, il joue souvent au Bovine. Ça s'appelle Bovine Sex Club, mais c'est
non,
pas...
Non, je joue pas souvent au Bovine Sex Club. On fait le after party au Bovine Sex Club.
Alors, je disais que Susan habitait près du parc Bickford, puis que sa fille, là, la petite dernière, elle avait 16 ans au moment de notre histoire, en 1983. Puis elle était en train de passer son été dans un camp en Alberta. Rappelle-toi que Susan avait fondé sa famille à Calgary, okay, qui right. est en Alberta. Fait que probablement que toutes ses amies étaient là, donc elle est restée là-bas. Puis le papa, il est déménagé à Toronto en même temps que Susan, parce que lui, ben, pour le travail, il voyageait beaucoup. Okay? Donc, pour que ce soit peut-être plus facile pour les enfants, je ne sais pas, il était déménagé à Toronto, mais la petite de 16 ans, elle est restée en Alberta pour cet été-là. Mm-hmm. Donc, elle communiquait souvent avec sa mère, la petite, par écrit. Okay? Susan lui avait fait part dans une de ses lettres qu'elle était contente de décorer sa nouvelle demeure, mais qu'elle ne s'ennuyait pas en tout de l'humidité terrible de Toronto. Un soir du mois d'août, Susan devait aller souper chez son frère à Brampton, qui est à peu près 45 minutes de Toronto. Pas de trafic, là. Comme elle ne s'est pas pointée et qu'elle n'avait pas donné de nouvelles, son frère est devenu inquiet. Donc, il organise un souper. Elle se pointe pas. C'était pas son genre.
Non.
C'est jamais leur genre dans des histoires comme ça.
Non, non, c'est ça.
Le frère de Susan, il a un mauvais pressentiment. Fait qu'il se tape la route. Le 45 minutes de route pour se rendre chez sa sœur. Une fois sur place, puis là, on se rappelle qu'on est en 1983. Okay, les moyens de communication sont pas les mêmes, là.
Oh, non, 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 non.
Une fois sur place, il voit que la porte est barrée. Il se dirige donc derrière. Il arrive en avant, la porte de la façade est fermée. Il se dirige en arrière. Puis là, la porte est grande ouverte. quand est-ce que tu laisses une porte grande ouverte à ton retour, mettons?
I mean, peut-être si ton air clim est brisé, ouais, fait full chaud. Ouais. Mais c'est comme un dernier ressort.
Bon, il entre.
Oh boy.
Crie le nom de sa sœur. Aucune réponse. Il se dirige vers sa chambre quand tout à coup, le téléphone sonne. Il répond, mais il raccroche tout de suite en voyant la scène atroce dans la chambre.
Oh my God!
Susan est couchée. Il y a plein de sang qui l'entoure.
Couchée à terre? Couchée sur le divan? Oh God.
Je me rappelle plus si elle est dans son lit. Je pense qu'elle est dans son lit.
OK.
Il appelle le 911. Étrangement, la fille de Susan avait elle aussi un mauvais pressentiment, puis ça, même si elle était à des centaines de kilomètres plus loin.
Ah, c'est, ouais.
C'est elle qui avait appelé.
Holy shit, au même moment que... Oh, wow!
Puis là, parce que tu sais, elle avait pas de nouvelles de sa mère, elle avait un mauvais pressentiment, elle s'est dit « je vais appeler ma mère ». Puis là, quand elle a entendu un homme qui répondait puis raccrochait, elle devenait encore plus inquiète, là.
Il y a sans doute.
Mais elle a appris rapidement qu'il s'agissait de son oncle, OK? Fait okay, que, okay. Elle a appris rapidement là, qu'est-ce qui s'était passé, mais en même temps, elle a appris la mauvaise nouvelle que sa mère était décédée. Susan a été agressée sexuellement.
Oh!
Puis poignardée à multiples reprises.
Ah, oh, pas encore avec les fucking multiples poignardeurs de merde qu'on laisse.
Son ex-mari a été le premier suspect. C'est toujours les maris qu'on regarde en premier, surtout qu'ils venaient juste de divorcer, puis que leur relation n'était pas super, OK? Mais l'ex-mari a rapidement été éliminé. 4 mois plus tard.
Comment ça qu'il a été rapidement éliminé?
Ben, il y avait probablement un alibi, là, je veux dire...
Un alibi de faire.
Comme... Il travaillait beaucoup, il voyageait beaucoup pour le travail. Je sais pas c'était quoi son alibi. Tout ce que je sais, c'est qu'il a été éliminé, là.
Ouais, OK, all right.
Puis c'est pas lui.
OK, all right.
4 mois plus tard, OK, en décembre, parce que ça s'est passé en août. Là, on est en décembre. Le même scénario se reproduit. La victime se nomme Erin Gilmore. Erin avait 22 ans en 1983. Ce qui n'est pas le même profil que Susan. Je te rappelle qu'elle avait 45 ans, tu sais. Fait qu'Erin, elle a 22 ans. Puis elle habitait dans le quartier de Yorkville sur l'avenue Hazleton. Son appartement, il était situé à environ 4 km de chez Susan. Erin étudiait en design de mode, puis elle habitait justement au-dessus de la boutique pour laquelle elle travaillait à temps partiel pendant qu'elle faisait ses études. Le père d'Erin était millionnaire, mais il voulait que sa fille puisse être en mesure de gagner sa vie par elle-même. Il la gâtait quand même. T'sais, il était comme, tu vas faire tes études, tu vas avoir un bel appartement dans un beau quartier, mais je veux que tu puisses apprendre là, justement à gagner ta vie par toi-même. Fait qu'il essayait de lui faire faire un parcours normal, finalement. Ben, normal, un parcours... Comme tout le monde, là, je sais pas.
Mm-hmm.
Mais tu sais, il la gâtait quand même. Erin, elle partait souvent en voyage avec sa famille aux îles Fidji en vacances. Un petit fait cocasse ici, son père, il s'appelle David Gilmer. Il est décédé le 11 juin cette année. Donc, ça fait genre un petit peu plus qu'un mois, 2 mois qu'il est décédé.
Oh,
puis c'est lui qui a fondé la compagnie de bouteilles d'eau Fidji.
Au tabarnak!
Quand je te dis qu'il est millionnaire.
Gros succès, là. C'est cher, ces bouteilles d'eau.
Le soir du 20 décembre, Erin devait aller à un party avec un ami après la job. À 21h20, l'ami en question va chercher Erin chez elle. Rappelle-toi qu'elle reste juste au-dessus là, de sa job, okay, de la boutique où elle travaille. Puis là, en arrivant, il remarque que la porte est ouverte. Il entre. Il crie le nom de son ami, mais il n'y a rien.
Oh boy!
Ça ressemble pas mal au scénario de Susan, hein? Il se dirige dans sa chambre, puis là, lui aussi, il voit la scène atroce. Pareil comme Susan, Erin a été agressée sexuellement, puis poignardée à mort dans sa chambre.
Ah, oh, d'où Jésus, Jennifer? Là, on est en train de parler d'un tueur en série ou quoi, là?
Ouais.
Ah, oh, fuck off.
Le cas d'Erin a été grandement médiatisé, beaucoup plus que celui de Susan. Est-ce que ce serait parce qu'elle était plus jeune? Parce que son père était millionnaire à la tête d'une compagnie. Peut-être. Mais son cas, c'était partout à la télé. Là. Le pire dans cette histoire-là, dans l'histoire d'Erin, c'est que son meurtre puis son agression sexuelle, ça s'est produit en 20 minutes. Parce qu'elle a fini de travailler à 9 heures. Puis ça y prend quoi aller chez eux? Là? Je vais être généreuse, puis je vais dire qu'elle a bretté après son chiffre, puis qu'elle a monté les escaliers, puis que ça a pris 5 minutes. Là.
Right.
Très généreuse, là, parce que right. Tu sais, quand tu finis ton chiffre, là, tu sacs ton camp. Puis, bon, elle monte non, chez elle.
Seul temps pour une douche, puis un.
Comme si quelqu'un l'attendait là, quand elle avait fini, parce que tu sais, son ami est arrivé à 9h20, il n'y avait personne d'autre dans l'appart, puis Erin était décédée. Là.
Fuck.
Fait que ça s'est passé en 20 minutes. Ouf. C'est sûr.
Puis le tour a déjà disparu dans ce temps-là.
Oui, c'est sûr qu'elle était ciblée, là. C'est ouais. sûr que c'était quelqu'un qui avait regardé, qui savait son horaire.
Yeah, c'est pas nécessairement un opportuniste, c'est quelqu'un qui vise la victime.
Ben là...
Ouf, ça c'est creepy.
Ou c'est opportuniste, comme tu dis, puis qu'il a vu qu'à mon... Je sais pas.
I don't know.
Faut que tu sois sûr de ta chatte, faut que tu sois sûr qu'elle habite pas avec quelqu'un d'autre, là.
Non, that's it.
Parce qu'elle habitait seule, tu sais. Fait que là, pendant les jours qui ont suivi le meurtre d'Erin, OK, les policiers ont interrogé des centaines de personnes. Ils ont pris plein d'échantillons sanguins, mais ça n'a rien donné. Faut se rappeler... Je sais pas ça fait combien de fois que je le dis, mais ça se passe dans les années 80, au début des années 80. On avance. Fast forward 20 ans plus tard. 20 ans plus tard. 20 ans, c'est énorme, là.
Mm-hmm.
En 2003, Gary Ellis, qui a fait partie de l'enquête pour trouver qui avait tué Erin, finalement, dès le début, là, 20 ans plus tard, s'est rendu le chef des homicides pour le service de police de Toronto. Okay? Par curiosité, là, il a demandé aux responsables des crimes non résolus ce qui se passait avec le dossier d'Erin Gilmer. Pendant ces 20 années-là, Gary Ellis y pensait souvent à Erin. Vu qu'il était là depuis le début, c'est quelque chose qu'il n'a pas pu oublier puis ça le hantait. T'sais. Fait qu'il demande ça de même. Il a été tellement surpris d'apprendre qu'il y a des tests d'ADN qui ont pu démontrer hors de tout doute que l'ADN retrouvé sur la scène d'Erin et l'ADN retrouvé sur la scène de Susan étaient le même. Les deux meurtres, viols, ont été commis par la même personne. OK, pour nous, là, dans le cadre de l'épisode de Côté sombre, qui se fait en ce moment, c'est quand même facile à savoir. T'sais, je te parle pas de ces deux cas-là en même temps pour rien. Mais pour eux, à l'époque, ils n'en avaient aucune idée que c'était lié ensemble.
Right.
La famille, par contre, de Susan et Erin, ils étaient comme... Really? Genre, ça t'a pris 20 ans avant de catcher que c'est la même affaire, là, ces deux femmes qui habitent seules, qui sont mortes dans leur lit, qui se font agresser, puis qui se font poignarder. Mais bon,
mm-hmm.
Ça, c'est une autre affaire. Pour lier les deux cas, okay, l'ADN qui a été retrouvé dans le cas de Susan Tice a été inscrit dans une base de données. Même chose pour le cas d'Erin. Fait que là, ils trouvent de l'ADN sur la scène de Susan, qui n'est pas celle de Susan, puis même chose pour Erin, puis ils rentrent ça dans une base de données. Cette base de données-là a été créée par le RCMP en 2000 afin d'aider justement à résoudre les meurtres non résolus. Toute l'ADN trouvée sur les scènes de crime se retrouve à l'intérieur de cette base de données-là. Ensuite, ils peuvent comparer avec l'ADN de criminels connus. Cependant, le meurtrier de Susan puis Darren ne semblait pas s'être fait arrêter justement auparavant. Fait qu'il n'y a aucun match qui a pu être effectué. Fait que là, tout ce qu'ils savent 20 ans plus tard, c'est que les deux meurtres, viols, sont reliés. Ça va prendre encore 19 longues années pour trouver le coupable grâce à la généalogie génétique.
Ah ouais, comme 23andMe.
Yeah, Mr. White! Yes, science!
Avant que j'explique c'est quoi la généalogie génétique, puis expliquer de manière vraiment... Là, simplifiée, puis comme je la comprends aussi. J'aimerais vraiment ça, gang, inviter un spécialiste de la généalogie génétique, mais écoute, j'en connais pas. J'aimerais ça, connaître quelqu'un. Colin, je te pose une question, parce que toi, en fait, là, tu viens de nommer justement comme 23andMe.
Mm-hmm.
Nous, on est familiers avec la chose, parce que je t'ai acheté à un moment donné comme cadeau de Noël, je pense... un kit 23andMe, est-ce que tu peux expliquer c'est quoi? Parce okay. qu'il y en a beaucoup qui le savent. Il n'y a pas juste 23andMe. Il y a Ancestry, 23andMe. En tout cas, 23.
Il y en a plein.
Oui.
Anyway, le principe, c'est que tu craches dans un tuyau, puis tu envoies ça aux compagnies. Ils vont sortir ton ADN de ton crasher, puis ils vont comparer ça à d'autres sources de ADN, puis ils peuvent trouver comme des relatifs. comme j'ai comme plein de cousins puis cousines autour du monde qui que je connais fuck all d'eux, puis c'est intéressant. Mais ça donne aussi un peu d'historique sur toi.
Tu sais que t'es comme 98% anglais ouais. de l'Angleterre.
Ouais.
T'as même des photos, tu sais, de des cousines qui partagent un gros pourcentage de ta génétique.
Ouais.
Tu sais où ils habitent parce qu'il y a plein de monde qui le font dans le monde maintenant. Moi, j'ai pas sélectionné cette option-là parce que ça me donnerait trop d'anxiété, mais tu peux aussi savoir quelle maladie, cancer, t'es plus propice
ouais.
peut-être.
C'est pas une garantie, mais c'est quelque chose à watcher.
Il y a quand même un pourcentage. T'sais, moi, ça me donnerait trop d'anxiété. Je penserais juste à ça, fait que je le fais pas. Je vais continuer mon texte, OK?
Je suis encore plus curieux que toi.
Parce que toi, tu savais pas mal t'aligner, tu sais.
Yeah.
Mais...
J'étais surpris que c'était tellement comme pure laine Angleterre. Je pensais qu'il y avait plus de mix que ça, mais...
Tu pensais plus allemand aussi.
Ouais, je pensais plus allemand, plus de Dutch.
Fait que, OK, pour revenir à nos moutons, là, ça a pris 19 ans pour trouver c'était qui le coupable grâce à la généalogie génétique. C'est un terme qu'on entend de plus en plus dans le milieu du true crime. C'est d'ailleurs à l'aide de la généalogie génétique que Brian Koberger s'est fait prendre. Brian Koberger, celui qui a tué les 4 étudiants en Idaho. Là.
Ouais. Le fameux cas super récent.
Hey, je t'ai pas dit... Excuse-moi, une autre parenthèse. Je t'ai pas dit... Parce que là, son procès va commencer bientôt, puis ses avocats, ils ont dit qu'il y avait un alibi à présenter. Tu sais quoi son alibi?
Quoi?
Parce que, tu sais, les caméras, ils ont toutes filmé ses allées et venues en voiture. Puis tu sais, il dit, ben, mon alibi, c'est que la nuit du meurtre, je me promenais tout seul en auto.
Tu me niaises, Jennifer.
C'est ça son alibi.
Come on.
Asti. En tout cas, moi, j'ai hâte que ce procès-là commence, là, puis... Fait que là, il y a lui qui s'est fait pogner par la généalogie génétique, puis il y a aussi le tueur de Gilgo Beach qui s'est fait prendre de cette façon, puis en passant, là...
Le tueur de Dildo Beach?
Gilgo.
Merci.
Lisk, Long Island Serial Killer. Donc, je retourne à mes moutons. Comment ça marche, la généalogie génétique? La généalogie génétique peut permettre aux autorités de découvrir l'identité d'une personne qui n'a jamais donné son ADN grâce à des membres de sa famille, puis ça, éloignés ou rapprochés, OK, qui l'ont fait. Les plus grosses compagnies, on en a parlé tout à l'heure, 23andMe, puis Ancestry. Quand tu reçois ton petit kit, là, c'est environ... c'est près d'une centaine de dollars, je pense, quand même. Mais ça vaut vraiment la peine. Donc, tu l'achètes en ligne, tu reçois ton petit kit, tu prends un échantillon de ta salive que tu renvoies à la compagnie. Il y a des règles à respecter. Je me rappelle plus c'est quoi, là, mais c'est...
Ouais, il faut remplir le tuyau à un certain niveau, puis...
Faut pas que t'ailles manger, genre, ou de quoi de même. Tout... Mais en tout cas, c'est pas très compliqué. Tu envoies ça à la compagnie, leurs scientifiques analysent ton échantillon, puis font des comparaisons avec les marqueurs génétiques qu'ils ont déjà dans leur base de données. OK? Ils ont déjà plus de 300 000 marqueurs génétiques. Faut noter ici que chaque individu a des marqueurs, a des groupes de marqueurs génétiques différents. Fait qu'on, tu sais, quand on dit que t'es unique, t'es unique. Si je prends par exemple le cas d'Ancestry, OK, afin d'avoir une base de données, là, une base de marqueurs génétiques, ils sont allés chercher ceux de familles qui ont une vraiment longue lignée qui est connue. OK, ils ont pris les marqueurs d'une famille avec une longue lignée au Canada. Sont allés en Australie. Ils ont pris les marqueurs génétiques d'une famille qui a une longue lignée en Australie. Ils ont fait la même chose en Irlande. Puis partout. Bien, pas encore partout, mais maintenant, c'est presque, OK? Fait que chaque famille de longue lignée sert de référence pour chaque endroit dans le monde. Ils séparent ensuite ton ADN en mille petits groupes. Puis regardent ensuite tes groupes de marqueurs à toi, puis les comparent avec eux dans leur base de données. Ils regardent le pattern de tes marqueurs. C'est comme ça qu'ils peuvent déterminer ton ethnicité. Il est possible d'être mélangé, évidemment. On le sait, tu sais. Dans ce cas-ci, ils sont même capables de déterminer le pourcentage de chaque ethnicité. Il se peut, par exemple, que 30 % de tes groupes de marqueurs suivent un pattern similaire aux Irlandais. Donc, tu serais 30 % irlandais. Toi, Colin, c'était comme... Clair, là, 97 % anglais.
Yeah. Sur notre bébé, au moins 50 % anglais.
Puis le reste, c'est ça, je sais pas. Fait qu'il faut que je fasse un test.
Mais tu sais, si on check le FASP puis les caractéristiques de notre bébé, je pense que mes génétiques ont dominé un peu.
J'en suis-je la mère? Ce bébé-là, non. À date, rien de moi. À part le deuxième orteil plus long que le gros orteil,
ouais.
Je sais pas qu'est-ce qu'elle a de moi.
Non.
Elle a les cheveux frisés, elle a tes petits yeux, tes joues.
C'est ma petite
bébé. Elle est grande pour son âge.
Mon petit bébé Jésus.
Mon petit bébé Jésus. Elle ouais. Te ressemble tellement. Fait que là, plus qu'il y a de personnes qui utilisent ces compagnies-là, généalogie génétique, ben plus les réponses peuvent être précises, puis ça devient de plus en plus précis. Puis c'est aussi, si, mettons, il y en a qui connaissent déjà ça, qui ont déjà fait un test, là, je sais pas, un an. Mais moi, je te conseille de reconnecte-toi, puis retourne regarder ton profil, parce qu'il y a des choses qui ont peut-être changé, parce que là, il y a plus de personnes dans le monde qui le font, fait que peut-être qu'ils t'ont trouvé d'autres cousins que tu connais
j'ai
pas.
J'ai des updates par courriel, là, comme tous les mois, là. C'est, on a trouvé d'autres cousins, on a trouvé ça, puis ça, puis ça. C'est intéressant.
Dans le cas de Colin, on a même découvert, je l'ai dit tantôt, là, des cousins super proches de l'Angleterre. On les connaît pas, par contre, mais on voit qu'ils partagent un gros pourcentage avec eux. Puis on peut même voir des photos, parce que si tu fais ton, si tu crées ton propre profil, puis tu peux mettre ta photo, puis tout. Puis là, je vais vous lire aussi un extrait qui est paru dans la presse. Les experts peuvent aussi remonter dans la généalogie pour identifier, par exemple, les arrière-arrière-grands-parents que la personne recherchée a en commun avec la personne connue dans le système. Ensuite, on peut redescendre dans l'arbre généalogique pour essayer de savoir qui peut être le troisième cousin avec cette personne, par exemple. C'est ainsi qu'en novembre 2002, près de 40 ans plus tard, que Joseph George Sutherland a été arrêté en lien avec les meurtres et agressions sexuelles de Susan Tice et Darren Gilmer. Joseph avait 61 ans lors de son arrestation. Quand il a commis les crimes en 1983, il avait 22 ans. Puis là, je te cite encore la presse, OK? Le lien pour l'article va être cité dans les sources comme d'habitude. Voici la citation. « Typiquement, une fois que les enquêteurs identifient un suspect grâce à cette technologie, la généalogie génétique, ils vont tenter d'obtenir un mandat signé par un juge afin d'être autorisés à récolter l'ADN de cette personne sans que celle-ci s'en aperçoive. » Fait que quand les policiers, là, ils vont comme... surveiller la personne, puis qu'ils vont fouiller dans leur poubelle, puis tout ça, ça prend un mandat. Okay. Dans le cas de Joseph George Sutherland, les tentatives visant à récolter l'ADN y ont échoué. Puis là, il y a un juge qui a autorisé les policiers à récolter directement l'ADN du suspect par la prise de sang, fait qu'il n'a pas eu le choix de soumettre. Il est actuellement détenu, puis en attente de son procès. Du moins, je crois, c'est ça qui était louche, parce que j'ai pas... Aux dernières nouvelles, il est passé en cour le 16 décembre 2022 puis il était à la recherche d'avocats. Fait que, est-ce que ça brette parce qu'il se trouve pas des avocats, entre guillemets, je sais pas, mais si.
Mais t'as le droit de représentation suffisant.
Ben, t'as le droit de te représenter toi-même, mais je pense que lui, il veut pas se représenter lui-même puis qu'il veut un avocat, mais qu'il dit qu'il veut, qu'il s'est pas trouvé d'avocat, peut-être pour pousser son procès plus loin, je le sais pas, mais.
Ouais, écoute, mais ça se fait. Ça se fait.
Mais il y a pas d'autres, j'ai pas d'autres nouvelles, là. Fait qu'il est peut-être en attente de son procès. Peut-être que c'est sûr que depuis la COVID, c'est plus long.
Tout est backed up en esti.
Mais c'était ça, mon histoire, aujourd'hui.
Oh, Jésus, Jennifer. Je suis content qu'il ait été trouvé, finalement.
Quasiment 40 ans plus tard.
I mean, finalement.
Finalement, ces femmes-là.
Mais moins, tu sais.
Mais ce gars-là va quand même avoir fucking vécu sa vie, là.
Ouais.
Non, c'est ça. J'ai pas de mots. C'est vraiment triste que ça ait pris autant de temps. Mais regarde, en même temps, au moins, ils ont fini par avoir une justice. T'sais.
Ouais. Un petit peu de fermeture, au moins.
Est-ce que tu veux savoir mes sources? Il y en a vraiment beaucoup.
Oh oui.
Statistique Canada pour les meurtres à Toronto puis les meurtres à Montréal. Wikipédia. Owensoundsuntimes.com, oxygen.com, encore owensound.com. En tout cas, il y a plusieurs articles de Owen Sound, plusieurs articles de Wikipédia. Sur YouTube, Dark Curiosities, ancestry.com, sur YouTube qui expliquait leur comment ils fonctionnaient justement. Puis la presse.
Wow.
Oui, c'est notre 50e épisode.
Merci, Jennifer, et merci à tout le monde de rester avec nous pendant tout ce temps, de nous aider à grandir notre petit podcast.
Notre communauté est tellement rendue grosse. Je me rappelle quand j'ai écrit le post « Gang, on a presque 500 personnes sur notre groupe Facebook, puis là, on a presque 3000 personnes. What the fuck? Yeah. » On est à 2900 quelques.
Yeah, yeah!
Je comprends pas.
Ah,
je...
Merci tout le monde.
Capote ben raide. On vous aime tellement. Puis il y en a que je sais qui sont là depuis le fucking début, début.
Yeah. Oh yeah.
Quand on se parle sur Facebook, je prends la peine, je me prends tout le temps un moment dans la journée pour répondre à tous mes messages. Les messages privés, j'ai du retard, je le sais, mais je finis tout le temps par... T'sais, si, mettons, je t'ai pas répondu, c'est juste que c'est passé en dessous des autres puis que c'est vraiment pas voulu. Écoute, je me réserve tout le temps un moment dans la journée pour répondre à tout le monde, même sur le groupe Facebook. Je trouve ça important. Au début, c'était facile, puis là, je rush un peu, mais écoute, j'aime tellement ça discuter avec tout le monde, puis il y a des noms que je vois revenir tout le temps qui sont là depuis notre épisode 1. Puis là, presque un an plus tard, ils sont encore là. Ces gens-là ont écouté notre premier épisode, puis ont fait comme « Ah, ils sont vraiment bons! » Parce que j'espère que là, vous remarquez la différence dans la qualité de production, premièrement, dans notre équipement. Hein, notre Patreon nous a vraiment aidé à ça.
Sauf une fois au chalet.
J'ose espérer qu'on est tous les deux meilleurs à raconter aussi. Merci, gang, de nous avoir fait confiance. C'est vraiment un projet qui nous tient à cœur, un projet qu'on aime. Puis c'est notre petit moment aussi. Tu sais, on est parents. Ça fait 2 ans et demi qu'on est parents. Mais ça prend un moment avant de se retrouver en tant que couple puis qu'on peut se dire qu'on n'est plus juste parents. Puis ça aussi, c'est notre petit moment dans la semaine à tous les deux quand on est moi, notre projet ensemble.
Mm-hmm.
C'est vraiment le fun, tu sais.
Mm-hmm.
Fait que merci tout le monde de... Tu sais, si on n'avait pas eu d'auditeurs, personne qui nous écoutait, on n'aurait pas continué, tu sais.
Non, notre expérience est rare et spéciale, puis on l'apprécie, puis on est conscient de...
On l'apprécie, puis on est tellement reconnaissant de tout le monde. Puis tout aussi nos collègues, de podcasteurs québécois qu'on a connus, tu sais, on est devenus amis avec certaines personnes, tu sais, je pense à Marie-Ève, mettons, tu sais, on a connu du beau monde, puis on a eu la chance d'avoir des personnes comme Captive qui nous donnent un coup de pouce, qui nous...
Tu sais, Simon aussi.
Captive et Simon, oui, puis Distorsion, tu sais, je veux dire, on a eu l'appui des plus grands dès le début, puis ça, j'en reviens même pas.
Mm-hmm.
Tu sais, puis... probablement que tout le monde qui nous écoute connaisse Captive, mais mettons, puis qui suis-je, là, je veux dire, c'est sûr que tu connais Captive, mais mettons qu'une personne parmi tous ceux qui nous écoutent qui connaissent pas Captive, là, gang, s'il vous plaît, allez les écouter. En plus d'être vraiment... que leur podcast soit excellent, les filles sont tellement fines, là.
Oh oui.
Moi, j'en reviens juste pas.
Ils sont les best.
Michel, Annie, on vous aime. On vous aime d'amour. Moi, je les connais peut-être un petit peu plus que toi, Colin, mais
yeah.
Je sais que tu les apprécies quand même.
Oh, oui.
T'es reconnaissant. Bye, gang. On vous aime.
À la prochaine.
50e épisode. Oh. Push the ceiling, Colin. Love you. Bye.